stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
Bonjour et bienvenue sur Bac FM dans l'émission L'écho des jeunes. Aujourd'hui, le thème de l'émission sera la politique. C'est où, c'est quoi, c'est comment. Donc, dans cette émission, on aura le droit à une interview du porte-parole de Youth for Climate par Antoine Doirieux. On aura aussi le droit à un micro-trottoir pour savoir ce que pensent les lycéens de la politique. On aura ensuite une interview de Monsieur Vissac sur la réforme du bac. Puis, le portrait du mois sera celui de Annick Béraud, une journaliste, grand reporter à Radio-Canada. Mais tout de suite, une interview réalisée par Hippolyte Darbeau. Une interview de Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. À tout de suite.
Bonjour, bienvenue sur Bac FM. Nous sommes avec Julien Bayou, donc, qui est secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, qui est donc présent à Nevers. Enchanté, Julien Bayou. Enchanté. Merci donc de nous rencontrer. Donc, vous venez en visite à Nevers. Sur quelle thématique, du coup, vous venez échanger avec le Neversois?
Eh ben, on vient parler d'écologie, c'est-à-dire, pour résumer, de l'avenir de la planète et de l'actualité. Les générations futures et les générations présentes. L'écologie, c'est l'environnement, la justice sociale et la démocratie. C'est vraiment les trois piliers. Protéger le climat, permettre à chacun et chacune de vivre correctement, de respirer un air sain, de manger à sa faim et de une alimentation de qualité, de pouvoir se chauffer correctement, de pouvoir accéder aux services publics, à la santé. Et puis les questions de démocratie. On a un président là qui décide de tout, tout seul, tout le temps. On a une abstention très forte, on a finalement le sentiment de ne plus avoir prise sur le cours des choses. Et l'écologie, c'est la réponse à ces trois sujets à la fois.
Et donc, vous êtes ici présent à Nevers. Pourquoi avoir décidé de venir ici dans la Nièvre? Parce que vous étiez à la Charité, je crois, juste avant. Pourquoi vous avez décidé donc de venir ici?
J'ai répondu à l'appel, à la proposition des écologistes. Moi, je suis secrétaire national, donc évidemment, je vais à la rencontre des adhérents, des adhérentes. Pour engager les discussions, on a pu discuter avec le maire de la Charité-sur-Loire qui, de par ses fonctions, est président du conseil de surveillance de deux hôpitaux. Et donc c'est important de pouvoir échanger, y compris avec une syndicaliste des personnels soignants, sur l'état de nos services publics et en particulier de la santé. Après la crise sanitaire, après l'épuisement de notre personnel soignant qui est peu considéré, qui est en burn-out, on va le dire comme ça, le sentiment qu'on traite la santé comme une marchandise et l'hôpital comme une donnée financière, c'est important de venir expliquer le besoin d'une santé, de la prévention et du retour finalement des services publics de proximité. On a ce qu'on échangeait, ce sur quoi on discutait avec le maire, c'est qu'on a finalement dans ce pays, en France, une augmentation de la mortalité infantile et que personne n'en parle. Voilà, on nous parle de tous les débats, de toutes les discussions, l'extrême et quasiment le spectre d'une guerre civile. Mais sur les données de base, le fait de pouvoir avoir accès aux services publics, sur l'accès aux soins, eh bien, on fait complètement l'impasse. Eh bien, nous disons avec les écologistes, l'enjeu, c'est la santé. Traiter les services publics comme une marchandise, et on se retrouve dans la situation actuelle où vous êtes dépendant de votre voiture et vous devez aller toujours plus loin pour avoir un accès à un rendez-vous ophtalmo, gynéco ou dentiste. Et ça, c'est pas possible. Ça a des vrais impacts sur la santé, parce que si vous hésitez à aller faire les 50 km pour aller voir un dermato, eh bien, c'est un dépistage de cancer qui peut mal se dérouler. On sait que si on y va plus tard, c'est plus dangereux. Donc il y a un enjeu phénoménal de ces services publics de proximité, et ça veut dire revenir sur des décennies où on a traité l'hôpital comme une marchandise.
Et donc vous parlez donc beaucoup de la santé. On sait que Europe Écologie Les Verts n'est pas forcément uniquement tournée autour de l'écologie, comme vous venez de le prouver en parlant donc de tout ce qui s'est passé dans le système de santé. Au-delà de du système sanitaire et de l'écologie, au niveau sur le plan social, vous avez quoi comme revendication?
Mais faut bien voir vraiment que, je le redis, hein, l'écologie est un projet complet. C'est les générations futures, mais c'est aussi la satisfaction des besoins des plus vulnérables aujourd'hui. Et à cet égard, en vrai, moi je conteste le fait que les gouvernements précédents aient rempli leurs tâches. Moi, je suis né en 1980 et depuis 1980, on nous dit qu'il faut 2% de croissance pour régler la question du chômage. Ben, ça n'a jamais eu lieu. On a une difficulté d'emploi. Il y a des gouvernements qui ont laissé faire des délocalisations. On a aujourd'hui un gouvernement qui refuse d'agir pour sauver différentes usines. C'est Ferropem en Savoie, c'est la fonderie SAM en Aveyron, c'est la chapelle d'Arblay du côté de Rouen. Nous, les écologistes, nous voulons agir pour protéger ces emplois, pour relocaliser, pour réindustrialiser. On a la droite, par exemple, qui nous parle de valeur travail à longueur de journée. Mais quand il s'agit concrètement d'augmenter les salaires, parce qu'aujourd'hui, avec un SMIC, c'est difficile de vivre, en particulier quand les factures explosent, eh bien, si on est sérieux avec la valeur travail, on la rémunère. Voilà ce que nous disons, nous, écologistes. Donc moi, je considère vraiment que celles et ceux qui nous ont gouvernés depuis des décennies ont failli, vraiment, sur les libertés, sur l'égalité et sur la fraternité. Et sur le dernier pilier de notre démocratie, c'est-à-dire anticiper l'avenir et répondre à la menace que représente le dérèglement climatique. Donc vraiment, celles et ceux qui ont précédé ont échoué. Voilà. Les donneurs de leçons se sont plantés. Et donc, il est temps de faire confiance aux écologistes qui ont patiemment tenu bon quand ce que nous portions n'était pas populaire, qui ont défriché des alternatives, porté des alternatives sur l'agroécologie, sur la rénovation thermique, sur les énergies renouvelables, et qui aujourd'hui, d'ores et déjà, les expérimentent et les mettent en œuvre dans les grandes mairies écologistes. C'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est Strasbourg. Il y a un enjeu, c'est 2022, c'est la présidentielle. Si on a envie d'améliorer la vie des gens sur les questions climat comme sur les questions sociales, et c'est évidemment pas avec ceux qui ont failli qu'on pourra faire quoi que ce soit de mieux, et donc c'est vers les écologistes qu'il faut se tourner.
Vous mentionnez l'avenir, évidemment, par rapport aussi à l'évolution du numérique et donc la transition numérique, comment vous l'envisagez en collision du coup avec la transition énergétique, comment pour vous ça peut fonctionner les deux, parce qu'on sait que malgré tout le numérique peut être polluant, mais certains le défendent et le favorisent au concret. Quelles sont vos positions là-dessus?
Mais pour nous, il ne s'agit pas de traiter le sujet comme un totem ou un tabou. C'est un outil, c'est un moyen. Si vous me dites le numérique résout le problème de médecins, je vous réponds que la vidéoconsultation ne peut pas régler tout. Ça peut être un palliatif, mais si à un moment vous avez un problème de dents ou ophtalmique, par principe, vous voyez, moi j'ai la crainte qu'il y ait une sorte de, on appelle ça le solutio, le fait qu'on fasse reposer sur la technologie des solutions à venir. Il y a un besoin d'encadrer le numérique, il y a un besoin évidemment de développer la fibre et l'accès au numérique, parce que désormais c'est un droit, quelque part, pour trouver un emploi, pour payer ses impôts, pour avoir accès à la santé, pour accéder aux services publics de base. Vous avez besoin d'Internet et vous avez aussi besoin d'une formation à ces outils, c'est désormais incontestable. Mais faire reposer sur le numérique ou estimer qu'on va trouver des solutions via le numérique sur le manque de médecins, par exemple, c'est une vraie chimère, et moi je me méfie de ces fausses solutions. Voilà. Donc, il y a un enjeu de réguler ce qu'on appelle les GAFAM, les grandes entreprises multinationales qui font des milliards sur nos données personnelles, en évadant l'impôt et bien souvent en détruisant l'environnement. L'archétype, c'est Amazon. Nous, on est pour un moratoire sur les nouveaux entrepôts Amazon, parce qu'Amazon échappe à l'impôt, Amazon détruit des emplois. Quand vous avez un emploi précaire créé chez Amazon, vous en avez 5 qui disparaissent dans le commerce de proximité, dans le commerce de détail. Et puis, tous ces entrepôts grignotent des terres agricoles précieuses. Donc, il y a un enjeu de re-régulation. Là où souvent, on nous dit, Internet ou le numérique est la solution à toutes les difficultés du monde.
Et donc, on va poser encore une ou deux dernières questions. Vous parlez donc des GAFAM. Souvent, la solution aussi est d'encourager à une consommation engagée. Est-ce que vous pensez... comment vous pensez qu'on peut pousser les gens à avoir une meilleure consommation, consommer plus localement ou des choses comme ça?
Ça va peut-être vous surprendre, mais ce n'est pas ma priorité. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de consommer chez Amazon. J'ai un téléphone là, qui a un certain âge. Je l'ai réparé plusieurs fois, tant mieux. Mais l'enjeu de l'écologie, c'est de réguler. Ce n'est pas de faire culpabiliser les gens, si vous voulez. Et donc, par exemple, sur le fait de pouvoir manger sainement, moi, mon enjeu à moi, en tant que dirigeant, en tant que responsable public, c'est que l'ensemble de la population ait accès à la cantine bio, par exemple. Et quand vous avez un maire écologiste, eh bien, il généralise la cantine bio. Parce que, ainsi, même les gamins des familles qui n'ont pas beaucoup d'argent ont un bon repas par jour. Et ça fait un vrai revenu pour les agriculteurs. Un repas végétarien, par exemple. Un repas avec des produits locaux et bio, sans pesticides. Là où il y a une certaine tendance, notamment dans ce gouvernement actuel, à dire « c'est un peu de votre faute, vous voyez ?» Vous avez laissé le bain couler, ou coupé, je caricature à peine, coupé les lumières. Mais la personne qui va dans un magasin et qui constate qu'il y a du suremballage, c'est pas de sa faute. Hein. L'enjeu, c'est de prévenir à la source les raisons de ce suremballage. Et donc, l'écologie, c'est aussi agir sur la régulation. Il suffit pas de demander aux gens ou de culpabiliser les gens de plus aller chez Amazon. Il faut réguler Amazon.
D'accord, c'est bien, c'est très intéressant. Donc on va finir par parler donc de ce qui va arriver pour vous et pour donc tout le groupe de Yannick Jadot dans les mois et semaines à venir. Ce sera quoi vos prochaines destinations, vos prochains objectifs, pardon, dans cette campagne présidentielle?
Nous voulons gagner et proposer une alternative heureuse pour le pays. On voit que notre pays, au-delà des questions de gauche, droite, d'impôts, d'égalité, de redistribution, on sent vraiment une sorte de fatigue démocratique. Le pays a été brusqué, violenté presque, par les mesures d'Emmanuel Macron, qui n'a pas du tout pris la conscience que notre pays est fatigué. Voilà. C'est un recul des services publics, c'est une augmentation des inégalités, c'est une baisse des soutiens aux personnes qui ont du mal à se loger pour financer les cadeaux aux plus riches. C'est un recul complet sur l'environnement, sur la prise en compte du climat. Et ça vient malheureusement après des gouvernements qui avaient aussi, eux, failli. Et donc, finalement, il n'y a plus que trois projets sur la table. Vous avez les réactionnaires, les conservateurs et les progressistes. Voilà. Et ben, les réactionnaires, c'est l'extrême droite, qui est sur un passé un peu fantasmé, hein, l'Algérie française, les femmes à la maison, et le spectre de la guerre civile, je résume à gros traits. Les conservateurs, c'est ce gouvernement, comme d'autres, qui, par exemple sur l'hôpital, considèrent que c'est une donnée financière, alors qu'on devrait se concentrer sur la santé et l'accès aux soins. Et puis, l'écologie, projet d'avenir, l'avenir de la planète et l'immédiate satisfaction de nos besoins. Et ça, c'est le projet que porte Yannick Jadot. Et c'est extrêmement enthousiasmant parce que nous l'avons porté dans le désert pendant des décennies quand personne s'en souciait, quand la science même n'était pas encore certaine. Et aujourd'hui, on voit, on sent notamment une jeunesse qui pousse, qui a grandi avec les rapports du GIEC, qui est parfaitement consciente des risques pour son avenir à elle et qui a décidé de se prendre en main. Et ça, c'est une belle promesse.
C'est un beau mot pour finir cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous souhaite le meilleur pour la campagne.
Merci à BAC FM.
Merci beaucoup à Hippolyte Darbeau et Julien Bayou pour cette interview très enrichissante. On se retrouve tout de suite pour l'interview par Antoine Doirieux, du porte-parole de Youth for Climate. Mais avant ça, Trio et Big Feu Lip, fermez les yeux. À tout de suite.
Enfants militaires qui partent en guerre, c'était caché, empilé dans le frigidaire. Petite ville, grand cimetière. Dis-moi combien de morts depuis la nuit dernière. La planète se réchauffe, crème solaire. Amazonie, bientôt plus d'air. Froid en été, chaud en hiver. L'usine vomit dans la rivière. Travail, esclave, reste tranquille. Villa, avec vue sur bidonville. Continue comme ça, pourvu que ça dure. On se comprend pas, on construit un mur. Enfants qui courent sur la plaine. Une mine anti-personnelle. Dors dans le métro, sur la bouche d'air. Fruits sans défaut, au goût amer. La maison du voisin se met à brûler. Ferme les volets, allume la télé. Torture, guerre au Darfour. Tortue mange un sac Carrefour.
Arrête de nous prendre la tête. Tu vois pas qu'on fait la fête. Ah, tu vas pas changer le monde. Non, tu vas pas changer le monde. Fais comme nous, ferme les yeux, ferme les yeux. 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 Fais comme nous, ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux.
choses changent avec le temps.
Ringardise les traditions.
L'Afrique a ouvert un restaurant.
Quand est-ce que l'Europe paye l'addition?
Des plages en plastique,
des calaches à l'école,
des états qui trafiquent,
des oiseaux en pétrole,
une famille cachée dans un conteneur,
vieux clandestin,
nouvelles frontières, tickets resto,
frigo
vide, on serre la ceinture,
d'explosifs,
grenades maladroites, cieux qui se ferment, débat sans fin,
gauche, droite,
extrême, un agriculteur attend que ça pleuve,
tu comprends pas le cours,
apprends le par cœur,
koala cherche, eucalyptus,
publicité le matin,
à l'arrêt de bus, remplis le caddie,
vide la poubelle,
remplis la poubelle,
vide le caddie.
Famille qui se déchire,
testament,
mal au crâne,
ordonnance,
médicament.
La vie est belle,
croisons les doigts.
Bientôt Noël,
gavons les oies.
Autocollant anti-aéroport,
trop jeune
pour rencontrer la mort.
Arrête de nous prendre la tête, tu vois pas qu'on fait la fête. Ah, tu vas pas changer le monde. Non, tu vas pas changer le monde. Fais comme nous, ferme les yeux, ferme les yeux. 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 Fais comme nous, ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux.
Camping face à Hulot quand les abeilles se meurent. Ton miel dans le frigo n'est plus de toute fraîcheur. Demande à Monsanto, où devrait-on dire Bayer? Comme leur monde va être beau face à nos douces frayeurs. Alors on prend tous les stylos, inversons la vapeur. Piflo, poli, trio, si on plantait des fleurs. Peur des géants mais pas des mots, ça déconne dans le scénario. L'avenir de l'homme on le voit en bio, mot qui résonne dans le chaos. Donc ferme les yeux, ferme les yeux.
Arrête de nous prendre la tête.
Ferme les yeux, ferme les yeux.
Tu vois pas qu'on fait la fête.
Ferme les yeux, ferme les yeux.
Tu vas pas changer le monde.
Ferme les yeux,
ferme les yeux.
Fais comme nous, ferme les yeux, ferme les yeux.
Fermez-les, fermez-les, fermez les yeux.
Ferme les yeux, ferme les yeux.
Ferme les yeux, ferme les yeux.
Ferme les yeux, ferme les yeux.
Fermez-les, fermez-les, fermez les yeux.
Ferme les yeux, ferme les yeux.
Fermez-les,
changez le monde.
C'était Big Flo et Lee feat. Trio, fermez les yeux. Tout de suite, une interview du porte-parole de Youth for Climate sur l'écho des jeunes par Antoine Doirieux.
Salut Hippolyte, aujourd'hui notre présentateur habituel est passé de l'autre côté de la table pour nous parler du groupe de jeunes Youth for Climate dont tu es le porte-parole neversois, mais aussi de tes convictions et de ton combat pour la planète.
Enchanté.
Donc c'est avec plaisir que je t'interviewe aujourd'hui, alors explique-nous, qu'est-ce que Youth for Climate? En quelle année as-tu décidé de suivre ce projet?
Youth for Climate, c'est un groupement de manifestants, c'est à l'échelle mondiale et du coup aussi à l'échelle française, et donc il y a des groupes un petit peu partout, et donc il y en a un à Nevers depuis peu. Ça fait seulement 3 mois que nous en fait on existe, mais pendant plusieurs années on était Fridays for Future Nevers. On était aussi identifié comme un groupe Youth for Climate, mais on portait le nom Fridays for Future, le mouvement de Greta Thunberg, puisqu'on manifestait tous les vendredis, et moi j'ai rejoint le groupe il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant. C'était juste avant le confinement, juste avant la pandémie. Et donc, depuis peu, du coup, on est passé en Youth for Climate Nevers. On a un peu délaissé le côté Youth Fridays for Future pour s'offrir plus de liberté dans notre combat.
D'accord. Et comment pouvons-nous intégrer le groupe?
C'est tout simple. Il suffit de nous contacter. Vous pouvez nous trouver sur Instagram notamment, ou après passer par le biais juste d'une connaissance. Me contacter moi, il y a d'autres membres, ou venir nous voir en manif pour demander. Il n'y a pas de oui, carte d'adhérent. D'accord. Ou quoi. C'est pas une association, donc il n'y a rien à payer ou quoi que ce soit. Juste vous êtes membre. Vous pouvez rejoindre même le groupement, des organisateurs en fait du groupe. Mais on est un tout petit groupe en fait. Donc la première personne qui se pointe, on l'accueille les bras ouverts, quoi.
Et t'as combien de fidèles à peu près dans ton groupe? Vous êtes combien qui vraiment tous les vendredis allaient manifester?
Alors aller manifester, c'est au passé, puisque maintenant on manifeste du moins vraiment plus ponctuellement. on est en gros un groupe de 4-5 vraiment d'habitués qui sont dans l'organisation, qui créent le mouvement. On a perdu notre membre un peu fondateur, Michael Joanneau, qui était photographe indépendant et majeur, le seul majeur de notre groupe, qui est rentré aux États-Unis puisqu'il est américain, en octobre dernier. Depuis, on s'est débrouillé pour trouver un membre d'Alternativa NV pour déclarer les manifs pour nous, mais on n'est plus qu'un groupe de 3, 4, 5, du coup, organisé à créer un mouvement, et on a voilà, perdu un peu de grosses pièces, mais ce qui nous a poussé aussi à changer notre mouvement, Youth for Climate, et pouvoir trouver un peu de liberté, faire un petit peu ce qu'on veut de manière ponctuelle. Le rythme de tous les vendredis était vraiment compliqué à tenir et un peu décourageant, en fait, à force.
Oui, c'était une forme de routine, c'est peut-être pas le but de la manifestation.
Oui, on rentrait dans le décor, quoi, à force.
Ouais, d'accord. Donc, nous avons, je pense, tous vu ces images de la jeune Suédoise Greta Thunberg, seule, manifestant dans la rue face aux multiples décisions des dirigeants quant au réchauffement climatique. A-t-elle été l'élément déclencheur pour toi ?
En partie, c'est pas le seul et unique élément déclencheur, mais on va dire que ça s'est fait petit à petit, c'est-à-dire que j'ai entendu petit à petit parler donc du dérèglement climatique, des soucis que ça pouvait porter, et dont du coup Greta Thunberg qui a vraiment, je trouve, fait un travail incroyable de militante. Aujourd'hui, c'est vraiment la militante pour l'écologie, et elle a vraiment apporté une dimension supérieure au combat pour l'environnement. Pendant longtemps, bon, ok, il y avait les Verts, il y avait le ministre de l'environnement, mais il n'y avait pas plus que ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est passé vraiment, je trouve, un stade au-dessus. C'est vraiment un débat public qui touche beaucoup de gens. Tout le monde, en plus, est un peu consensuel là-dessus, à part peut-être l'extrême droite pour dire que oui, il faut faire quelque chose pour l'écologie. Faut agir. Alors après, chacun a des visions différentes et plus ou moins radicales. Mais elle a vraiment amené, je trouve, ce sujet en avant. Et du coup, moi aussi, ça m'a touché. Et puis de voir quelqu'un de quasiment mon âge s'engager autant, ça m'a aussi fait prendre conscience et au fil aussi de mon engagement. Ok, en fait, moi aussi, je peux faire du bruit. Je peux vraiment me faire entendre, quoi. Et même si c'est pas forcément l'élément déclencheur, c'est aussi du bouche à oreille. De, ah ouais, il y a une manifestation pour l'écologie, ça dirait de venir. Bon, allez, on va voir. C'est un truc qui me tient à cœur. Moi, je trouve qu'on fait rien, tout ça. Vas-y, je vais manifester. Et après, on se prend au truc et on se dit, ah ouais, effectivement, en fait, plus tu y penses, plus tu dis, en fait, il y a qu'un seul moyen, c'est de sortir dans la rue pour faire changer ça, quoi.
D'accord. Donc, c'est un peu un exemple de réussite, finalement, pour toi.
Oui, totalement.
Parlons désormais de la situation actuelle en France. Nous le savons, les constats sont alarmants et face à cela, les candidats à la présidentielle présentent différentes mesures, plus ou moins importantes. Qu'est-ce que ça t'inspire, tous ces discours, ces promesses ?
Beaucoup, c'est uniquement des promesses, quoi. On voit bien que, de toute façon, le problème de la politique, c'est que pour beaucoup de candidats, c'est des gens qui réagissent beaucoup vis-à-vis du coup des grands médias, dans l'intérêt des plus riches, dans un monde ultra-libéral, ultra-capitaliste. Le président Macron en est un petit peu l'incarnation, c'est-à-dire qu'il vient donner des beaux discours sur l'écologie, qu'il faut agir. Mais à terme, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les plus riches s'enrichissent encore plus, qu'on donne pas les moyens pour faire ça. On a vu Nicolas Hulot, qui était ministre de l'Environnement au début du gouvernement Macron, qui est parti parce qu'il a dit « bah voilà, je veux pas donner l'illusion que je vais servir à quelque chose, on me donne aucune liberté ». Donc il y a un vrai souci, je trouve, dans la majorité des politiques qui essayent de nous faire croire qu'ils vont faire quelque chose pour l'écologie. On a bien vu que Macron, qui pourtant essayait un petit peu de faire la politique du en même temps, c'est-à-dire « ok, on va comprendre les ultralibéraux de droite, mais en même temps on va comprendre la politique de gauche, tout ça pour faire avancer dans le consensus ». Et finalement, déjà il a pris selon moi un très beau virage à droite, mais en plus, pour l'écologie, on a eu quasiment rien du tout. Et on a eu une COP26 là en novembre dernier qui était catastrophique, quoi. Il y a rien qui en est sorti. Les lois européennes sont vidées de leur sens à cause des lobbies. C'est-à-dire qu'au lieu de oui, on va fixer telle date limite pour telle production, on va essayer de faire ça, et là ça n'a plus aucun sens, et donc ça n'avance plus. Et on voit bien que le débat politique aujourd'hui, quand on regarde les sondages, c'est très très à droite quand même. Quand on regarde Marine Le Pen ou Éric Zemmour par rapport à l'écologie, c'est le néant, c'est un désert béant. Les pro-Zemmour disent que c'est le lobby de l'éolien qui veut faire avec si on parlait de l'écologie, qu'en réalité c'est pas grave. Et donc et ce qui fait que aujourd'hui le débat politique, en fait, il y a quelques militants quand même, la gauche s'est vraiment parée
de cette question de l'écologie.
La question de l'écologie, voilà. Et même si, par exemple, nous, notre mouvement Youth for Climate, on est aparti, c'est-à-dire qu'on est attaché à aucun parti politique, malgré tout, on est quand même étiqueté à gauche. Alors même si, par exemple, en Allemagne, le parti écologiste est à droite, c'est surtout en France, la gauche qui en a pris. Voilà, le PS se dit écolo, il y a Europe Écologie Les Verts qui sont étiquetés à gauche, même la France Insoumise, le NPA parle beaucoup d'écologie. Mais malheureusement, on voit bien dans les sondages et dans le débat que c'est pas du tout les médias les plus médiatisés dont on entend le plus parler et qui risquent d'aller au gouvernement.
Ce n'est apparemment pas la priorité.
Non, ouais, malheureusement.
Donc tu nous as parlé de la COP26, c'est cette fois donc à l'échelle mondiale. Est-ce que tu ne te sens pas impuissant en tant que Français lorsque tu vois que des pays comme la Russie et la Chine, qui, je le rappelle, est de loin le plus gros pollueur du monde, n'y sont pas présents?
Bah oui, ça fait mal parce que on se dit que oui, c'est les pays qui peuvent le plus faire changer les choses. La Chine parce que comme tu l'as dit, c'est les plus gros pollueurs du monde en termes d'émissions de CO2 et que la Russie c'est l'un des plus gros producteurs de gaz, même peut-être le plus gros producteur de gaz et un des plus gros producteurs de pétrole au monde. Et si on arrive eux à les faire rentrer dans un consensus écologiste, bah c'est gagné, limite, en fait. Il n'y a plus que l'Arabie Saoudite et le Qatar à faire admettre qu'il faut se calmer, et puis c'est bon. Sauf que le seul problème, c'est que s'ils ne se pointent pas, bah on ne va rien faire avancer, et il y aura juste les pays de l'Occident qui diront « bah oui, on veut bien faire avancer les choses, mais comment ?» Parce que ceux qui produisent, ils continueront de produire. Donc en fait, oui, non, c'est pour ça que, comme j'ai dit, voilà, il n'y a rien qui a avancé à la COP26. Enfin, personne n'est capable de citer une mesure qui est sortie de la COP26.
C'est vrai, effectivement.
Donc voilà, on se sent impuissant, mais en même temps, enfin, moi, je suis militant, je porte la parole d'un groupe. Alors évidemment, on n'est pas nombreux, mais en même temps, à Nevers, on se dit, dans une si petite ville, quand même, se dire qu'il y a quand même des jeunes qui militent autant pour l'écologie, je pense que quand même, faut que ça pousse certaines personnes à dire, ah oui, ok, il y a quelque chose, en fait.
D'ailleurs, peut-être, est-ce que une date de une grosse manifestation qui arrive peut-être prochainement.
On avait donc une manifestation il y a deux jours, le 12 mars, et puis sinon on en a une autre de prévue, je crois le 5 avril, quelque chose comme ça, juste avant l'élection présidentielle. Et donc en fait là c'est pas uniquement Youth for Climate qui l'a organisé, mais c'est tout le collectif climat. Donc il y a dedans, il y a Alternativa, il y a NV, il y a ATTAC, il y a Europe Écologie Les Verts, il y a le Parti Communiste, donc il y a des partis politiques, il y a des groupements militants, etc. Qui font du coup, voilà, du moins localement, qui organisent beaucoup de manifestations, beaucoup de mouvements. Voilà, là, c'est des marches, on se retrouve après un endroit, un point précis. Il y a une prise de parole, il y a beaucoup de débats après, tout ça. C'est vraiment je trouve que c'est vraiment un bon moyen de militer. Puis voilà, le mouvement écologiste, c'est pas un mouvement, c'est clairement un mouvement pacifiste, donc il n'y a aucun risque à les manifester. C'est toujours, malgré tout, dans une bonne ambiance, avec des revendications assez fortes, malgré tout.
Une dernière question, justement, on revient à la situation mondiale. Est-ce que toi, ça ne te fait pas peur de voir encore le nombre de marches qu'il y a à monter, tout d'abord en France, puis surtout dans le monde?
Ah oui, ça fait clairement peur. On a vu par exemple le rapport de l'ONG Oxfam qui montre que les plus grandes richesses françaises sont le plus enrichies ces 16 derniers mois que ces 10 dernières années.
Oui.
C'est enfin rien que voir ça, c'est effrayant. Et on se dit mince quoi. Enfin, si on les taxe et que on met ces taxes là pour le développement de l'écologie, pour une justice sociale, parce que effectivement, bah les ménages les plus pauvres, si on leur donne plus d'argent, ils pourront mieux consommer si on arrive aussi à maîtriser cette consommation. Donc, il y a une solution, mais le seul problème, c'est que voilà, quand on voit les derniers rapports, quand on voit qui sont au gouvernement, quand on voit le système actuel, c'est pas possible. Peut-être que 30 ans en arrière, dans les années 70-80, où il y avait aussi l'URSS qui menaçait l'arrivée d'un système anticapitaliste, peut-être que là, il y aurait pu y avoir des concessions plus faciles, et peut-être que le communisme aurait pu gagner à cette période-là, ou du moins, le capitalisme n'aurait peut-être pas gagné. Mais là, aujourd'hui, le capitalisme a clairement le dessus à l'échelle internationale, dont 99% des pays, c'est un régime pro-capitaliste, et le capitalisme n'est pas du tout, je trouve, en adéquation en fait avec l'écologie, quoi. Parce que faut produire beaucoup, faut consommer beaucoup, faut faire tourner la machine. Sauf qu'au bout d'un moment, l'écologie, en fait, on dit non, en fait, faut se calmer, faut consommer mieux, faut que ce soit peut-être un peu plus cher, mais meilleur. Enfin voilà, après chacun a son point de vue vis-à-vis des choses. Il y en a qui parlent de sobriété, il y en a qui veulent faire ça en adéquation avec une technologie. Mais dans tous les cas, faut réussir à allier. Je pense que allier capitalisme et écologie, c'est pas possible.
Oui,
et d'accord. Donc, mais après, si on y arrive, c'est très bien. Enfin, il y a pas de souci. Hein. Et malheureusement, on voit qu'on va pas dans ce sens-là. Quoi. On voit qu'on entre dans un monde ultra libéral. Quoi.
C'est ce qui fait peur aux Français, d'ailleurs. Ce passage vers quelque chose de complètement différent, finalement, presque un nouveau monde.
Oui. Et puis surtout, c'est que beaucoup des Français, en fait, sont prêts à changer leur mode de vie. Mais le problème, c'est que les plus riches, ils sont pas prêts, en fait, à faire des concessions, à plus déplacer en jet privé et être un peu plus taxés. Et le problème, c'est que les présidents aujourd'hui, enfin, les grands dirigeants, ils parlent surtout dans l'intérêt des grandes entreprises, des multinationales, des plus riches. Et donc, forcément, on continue de faire tourner la machine, alors que beaucoup des Français, je crois que c'est plus de 3/4 qui ont dit que, oui, ils étaient prêts à faire des concessions sur la vie, à consommer moins, à payer plus cher si besoin, si c'est pour l'écologie. Mais si on le dit honnêtement, si on le fait clairement, si on fait de vraies mesures, je pense que c'est faisable malgré tout. Mais sinon, ouais, on fonce droit dans le mur. Non, alors on sait pas trop, on parle d'effondrement, de destruction,
Mais c'est l'apocalypse un peu. Quoi.
Voilà, on fonce dans tous les cas à droite dans le mur si on reste là-dedans, dans ce monde ultra-libéral. Quoi.
D'accord, bien merci beaucoup Hippolyte, ce fut un plaisir de recevoir un jeune engagé chez l'Écho des Jeunes. On fait une petite pause et on se retrouve juste après.
En remontant, on a vu qu'il n'y avait plus de ville. Et puis, la chaleur a apporté la pluie. La pluie noire. Vous avez rendu notre pluie noire et enfoncé vos valeurs dans notre gorge. Nous avons oublié qui nous étions.
Y'a plus de futur, la survie comme ça le programme éducatif. Le circuit de l'eau est corrompu, il pleut de l'acide et du plastique. On a voulu faire Atlantide, les tentatives ont échoué. On doit se terrer dans des bunkers, à la surface tout est souillé. Seuls les mineurs remontent. J'ai vu leur dernière vidéo, sale météo. Mais il faut bien ces matières rares pour filtrer l'eau. Comment sommes-nous arrivés là? Intriguant, trop de dégâts, l'homme est têtu, tout est perdu depuis l'incident. Les high-tech ont décliné des sous-sols pour demeure. Non, y'aura pas de tour d'honneur, partout la nature se meurt. Tu risques pas d'être vieux. Ils coupent l'air et l'eau des paresseux. On vit en bas, ça fait un bail qu'on l'appelle plus la planète bleue. J'ai postulé pour un travail à la recyclerie. Depuis la troisième guerre, on a revu nos styles de vie. Nucléaire, déforestation, ils ont fait la totale. 2222, si t'entends ça, c'est que c'est déjà trop tard.
Vous êtes de retour dans l'Écho des Jeunes sur Bac FM 106.1. Vous venez d'écouter 2222 de Hugo TSR, extrait de son dernier album Une vie et quelques. Donc le thème de l'émission, c'est toujours la politique, c'est où, c'est quoi, c'est comment. On a eu le droit à l'interview de Julien Bayou et d'un jeune militant de Youth for Climate, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast sur le site de Bac FM si vous ne les avez pas entendus. Et donc tout de suite, une nouvelle chronique dans l'Écho des Jeunes, l'Écho des Passants.
Tous les mois avec Antoine, nous emmènerons le micro de Bac FM dans la cité lycéenne du Banlay et ses alentours afin d'entendre l'Écho des Jeunes sur divers sujets.
Cette semaine, nous avons parlé politique et campagne présidentielle. Certains ou certaines ne s'y intéressent pas, notamment Clarisse, et on écoute pourquoi.
Est-ce que tu t'intéresses à la vie politique du pays ?
Non, pas tellement.
Et qu'est-ce qui ferait que tu t'intéresserais à la vie politique ?
Peut-être avec des émissions pour vraiment les débutants, des choses très bien expliquées. Je pense que ça pourrait m'intéresser.
À l'inverse de Clarisse, certains et certaines s'y intéressent. On les écoute.
T'intéresses-tu à la politique ?
Ben, plutôt, ouais. Pas mal, ouais.
Oui, un petit peu quand même. Un petit peu.
Oui, particulièrement, notamment depuis que je suis au lycée.
Et quel est le sujet qui tient le plus à cœur dans cette campagne ?
Oui, actuellement, c'est l'immigration. Je vois mes frères qui quittent l'Afrique pour venir ici, mais ils rencontrent des trucs bizarres en route. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse souvent à ça.
Les violences conjugales.
Il n'y a jamais assez d'idées pour moi qui vont assez loin. Par exemple, pour tout ce qui est réduction du taux de chômage et aide aux personnes qui vivent dans la rue, pour moi, il n'y a jamais assez de politiques qui font que ça va résoudre les choses.
Je pense qu'en ce moment, c'est l'environnement.
Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont mis sur la table, qui ne sont pas forcément intéressants.
Lesquels, par exemple ?
Eh bien, tout ce qui est... Je pense qu'on en fait beaucoup sur l'immigration, sur la sécurité, alors qu'on n'est pas si en danger que ça, même si avec tout ce qui est avec l'Ukraine et tout, c'est compliqué, mais je pense qu'on en fait beaucoup alors qu'il y a des vraies priorités plutôt sur l'écologie ou sur la crise démographique, ce genre de choses.
Avec Antoine, nous avons rencontré Malo, un lycéen engagé pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, et on écoute pourquoi.
Je suis dans un groupe donc de jeunes, donc les jeunes avec Mélenchon, donc c'est un groupe de soutien. Donc, mais après je trouve ça important au-delà du candidat qu'on soutient, etc. Je respecte tous les groupes et d'ailleurs j'invite les jeunes qui nous écoutent à s'engager, peu importe le candidat, mais engagez-vous parce que je pense que c'est important de défendre les idées des jeunes et faire entendre votre cause.
Est-ce que tu trouves que la parole de Jean-Luc Mélenchon est assez donnée dans les médias ? Est-ce qu'on l'entend assez pour toi ?
Oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon, alors j'ai pas les chiffres, hein, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon est un des candidats qui est le plus représenté. Il intervient sur de nombreuses chaînes, BFM, C8 par exemple. De ce point de vue-là, Mélenchon est plutôt bien évoqué par les différents médias, de tous bords d'ailleurs.
Comme quoi, malgré le taux d'abstention, les jeunes, même de moins de 18 ans, peuvent s'intéresser à la politique française.
Nous voilà à la fin de L'écho des passants, votre nouvelle chronique dans l'écho des jeunes. On espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine émission, nous écouterons les premières mesures que prendraient les jeunes s'ils étaient élus président de la République. Tout de suite, une interview exclusive de Monsieur Vissac, prof de SNT au lycée Raoul Follereau et militant du syndicat SNES-FSU, par Lina. On les écoute tout de suite.
Bonjour Monsieur Vissac.
Bonjour.
La réforme du lycée s'est mise en place à la rentrée 2019. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de cette réforme, s'il vous plaît ?
Oui, cette réforme qui a été mise en place à la rentrée 2019, elle a essentiellement de l'impact sur les séries générales du lycée. Puisque avant, comme je viens de le dire, le lycée fonctionnait en termes de séries. Il y avait une série S, une série ES et une série L. Et cette réforme déconstruit cette logique de série, puisque maintenant les élèves sont confrontés à un tronc commun avec des matières communes qu'ils font tous, à savoir le français, l'histoire géo, l'anglais, la langue vivante 2, le PS et un cours d'enseignement scientifique. Et à ce tronc commun, ils doivent ajouter un certain nombre de matières dites spécialités. Ils doivent ajouter 3 spécialités en classe de première. Et sur ces 3 spécialités qu'ils garderont en première, ils n'en conserveront que 2 en terminale. Donc en fait, le bac n'est plus en série, puisque dans l'ensemble des spécialités, il y a un choix qui est fait de manière individuelle par chaque élève, qui compose plus ou moins son baccalauréat à partir de l'offre de spécialités que propose son lycée.
D'accord. Et selon vous, qu'est-ce que ça change dans l'orientation post-bac pour les lycéens lycéennes ?
Alors ça change beaucoup de choses, puisque avant, comme le système fonctionnait avec des séries, en fonction de chaque grande série, il y en avait 3 à peu près, ça ouvrait de larges portes sur les études supérieures, sur les études post-bac. Alors que là, puisqu'il y a des possibilités de se spécialiser beaucoup plus, en faisant des choix qui sont spécifiques, de triplettes puis de doublettes de spécialités, on peut se retrouver à devoir choisir beaucoup plus tôt, en fonction de son projet d'orientation. Et justement, ceci est problématique, puisque les élèves en classe de seconde n'ont pas toujours une idée très précise de ce qu'ils feront plus tard, voire s'ils en ont une, parfois l'avenir déjoue leur pronostic. Donc du coup, c'est compliqué de se fixer sur quelque chose de très fermé dès la classe de seconde. Et le système referme en plus leur choix, dans la mesure où ils abandonnent une des spécialités en classe de terminale, donc ils en ont plus que 2. Donc ils finissent leur baccalauréat avec 2 matières principales, les 2 spécialités qu'ils ont gardées.
Et pour vous, quels sont les aspects positifs de cette réforme ?
Alors les aspects positifs, c'est évidemment le choix. Ça permet à des élèves de faire un parcours un peu moins formaté que ce qu'il y avait avant. Ça permet, autre aspect positif également qu'il peut y avoir, c'est que sont apparues des disciplines comme la NSI qui n'existait pas, c'est-à-dire l'enseignement d'informatique à proprement parler, un vrai enseignement d'informatique comme une autre matière, des enseignements artistiques qui sont apparus comme des vrais fondamentaux pour les élèves qui les prennent, puisqu'ils sont pris en spécialité. Ça, c'est les aspects positifs. Après, les aspects négatifs, c'est vraiment cette incertitude sur l'orientation, ce choix obligé qu'on demande aux élèves de faire, qui risque d'être problématique à l'heure de Parcoursup.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Vissac, et merci beaucoup, Lina, pour cette interview. Tout de suite, une petite pause musicale.
Welcome to the new age. my bones straight from inside.
I'm waking up.
Vous êtes bien de retour sur BAC FM 106.1 dans l'émission L'écho des jeunes qui porte sur le sujet de la politique cette fois-ci. C'est où, c'est quoi et c'est comment? Pour finir l'émission, le portrait du mois de Annick Béraud, journaliste grand reporter à Radio-Canada, qui était venue donc sur Nevers dans le cadre de la campagne présidentielle française pour parler d'écologie avec des militants écolos. Et donc, on l'écoute.
Annick Béraud, journaliste à Radio-Canada.
Annick, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier et en quoi ça consiste?
Voilà, alors comme journaliste, je vais à la rencontre des gens, je raconte des histoires qui sont pas fictives, hein. On m'envoie couvrir des événements prévisibles, soit des crises, ou encore aller couvrir en profondeur des dossiers chauds ralliés à l'actualité. Alors je suis en ce moment en train de vous parler depuis 9h parce que je suis dépêchée dans le cadre de la campagne électorale présidentielle et je parle des écologistes. Donc voilà, je suis ici à Nevers pour voir le courant écologiste.
Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie de devenir journaliste?
Un mot, curiosité. Depuis toute petite, j'ai toujours eu envie de savoir tout. Comme vous dites en France, je saoulais mes parents avec mes pourquoi, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et très jeune, j'ai su que je voulais faire, je sais pas pourquoi, du journalisme avant même de savoir c'était quoi du journalisme. Mmh. Je voulais rapporter des choses, j'écrivais dans des cahiers. Et pendant les Jeux olympiques de 1976, j'avais 13 ans et j'avais un cahier d'école dans lequel je consignais, parce que j'étais nageuse à l'époque, et je consignais les courses. J'étais éberluée par les nageuses est-allemandes. Maintenant, on sait à quoi tenait leur performance, là. Mais à l'époque, c'était, et j'ai encore ce cahier-là dans mes coffrets d'enfance, là, où j'avais tout, Cornelia Ender, sa course, etc., ses résultats. Et chaque fois qu'on allait en famille, je suis l'aînée de 6 enfants. On partait en voiture dans les années 70. Alors, c'est pas très écologique, mais on partait sur la route et je consignais. J'ai eu très tôt une petite enregistreuse, là, avec pour ceux, c'était une technologie que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, là, quand même, peut-être, là. Mais c'était avec une cassette. Donc, j'enregistrais des choses et voilà, très, très, très tôt. Et donc, à l'école, j'ai fait partie du journal étudiant, de la radio étudiante, et ça. Mais un mot, curiosité, en fait.
Et du coup, oui, donc tu travailles à la radio et seulement à la radio?
Non, j'ai commencé à la radio de Radio-Canada après mes études. Premièrement, en communication et journalisme, mais surtout communication. Donc, ce qui me permettait d'avoir un cursus qui m'intéressait, qui me permettait d'approfondir ma curiosité justement en politique, en économie, dans les affaires sociales, parce qu'en tant que journaliste, c'est pas que la technique, hein, c'est le fond aussi, il faut être capable d'expliquer des choses. Et donc la radio au départ, la radio étudiante aussi, mais le journal étudiant aussi, parce que j'avais le goût de faire les différentes expériences, et puis plus tard la télévision aussi. Et donc j'ai commencé au niveau scolaire, ensuite communautaire, et puis après ça j'ai eu ma chance après mes études, ce que vous appelez ici la licence, chez nous, le baccalauréat en communication et journalisme. Et après ça, ma maîtrise, ce que vous appelez vous autres le master, je crois, en éducation physique. Donc voilà. Et après ça, ben, j'ai eu un emploi à Radio-Canada. Mon premier vrai emploi professionnel, c'était à Radio-Canada en 1989 et je suis toujours là.
D'accord, OK. Et du coup, toi, c'est quel média que tu préfères et pourquoi?
La radio. Parce que on est proche des gens. Parce que les gens peuvent nous écouter partout. Parce qu'avec la radio, c'est plus facile d'approcher aussi, d'aller interviewer les gens. Je crois que c'est moins intimidant. La radio aussi, c'est le défi, c'est de pouvoir transporter les auditeurs sur le lieu que l'on visite. Et le défi, c'est de, avec le son, de créer des images. Et la proximité, c'est qu'ils entendent directement les personnes qu'on enregistre, qu'on rencontre, et ces personnes-là à l'autre bout du monde ou au bout de la rue parlent aux auditeurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une radio de proximité. Et je trouve aussi que on est moins distrait par plein de choses. On reste à l'essentiel. On reste à l'os. Et donc, j'aime beaucoup ça.
Qu'est-ce qui fait pour toi d'un journaliste un bon journaliste?
Encore la curiosité, mais je crois que c'est de... d'aller vérifier les hypothèses, d'aller au-delà des idées reçues. Si on a une hypothèse de travail comme dans tout, mais c'est pour ça l'importance d'aller voir sur le terrain ce qui se passe. Et c'est sûr que quand on est dépêché quelque part comme moi, j'ai été correspondante là pendant 4 mandats à l'étranger, plus envoyée spéciale depuis très longtemps, le défi c'est qu'on arrive quelque part où on n'a pas les codes. On n'a pas l'historique non plus. Donc, je pense qu'il faut poser les questions, il faut parler aux gens, il faut les écouter.
Il faut beaucoup d'humilité aussi.
Beaucoup d'humilité, parce que on croit, hein, c'est très bon ça, c'est exactement. Et on sait pas tout. Il faut comprendre qu'on sait pas tout. Ouais. Et il faut pas avoir peur de poser des questions, parce qu'on sait pas tout. Et même moi, des fois, quand je réécris des choses, je rappelle les gens pour dire, est-ce que j'ai bien compris ce que vous voulez me dire? Pour pas dénaturer ce que les gens ont dit. Et je crois que c'est une grosse responsabilité d'être journaliste parce que on a la chance d'aller rencontrer les gens. Mon grand trac, c'est de pas avoir compris ce qu'on m'a dit et de pas rendre justice à ce qu'on m'a dit. Et je trouve que dans des situations où on va couvrir des gens qui sont complètement démunis, des gens qui sont dans des crises et qu'on rend pas justice, et pas justice dans le sens de rendre justice dans le judiciaire, mais rendre justice aux propos, de bien traduire ce qu'on a vu, parce que c'est un privilège d'aller sur place.
Ouais.
Moi, j'ai été aux funérailles de Nelson Mandela, c'était une semaine de deuil national en Afrique du Sud, et j'étais souvent à un endroit où bien les Sud-Africains auraient voulu pouvoir être, et faute de place ou faute d'argent, on pouvait pas. Donc, je me sentais une responsabilité de bien traduire ce que je voyais, et de bien le transmettre aux Canadiens qui comprennent ce que c'était.
Ouais.
Et moi, je suis la mouche sur le mur. C'est-à-dire que je regarde, et après ça, je retourne, et puis je veux expliquer.
Ouais.
Et il n'y a pas de petit sujet. C'est-à-dire que je suis pas spécialiste dans tout. Faut pas avoir peur de se dire, ben, je comprends pas, est-ce qu'on peut répéter est-ce que je peux répéter la question pour bien comprendre?
Ouais. Et pour éviter aussi les fake news, du coup.
Mais, complètement. Et je trouve que c'est un défi qu'il y avait pas quand j'ai commencé en journalisme, je le vois avec la multiplication des sources, c'est bien, hein, parce que je peux pas être pour la censure, je suis journaliste. Mais il faut faire attention. Ça va tellement vite. Il faut prendre le temps de vérifier les choses.
Et pour toi, du coup, en tant que journaliste, donc on voit comment tu fais pour éviter les fake news, mais en tant qu'auditeur ou en tant que personne, comment on fait pour éviter les fake news, justement?
Ben, je pense que plus on se renseigne, on peut recouper les informations aussi. Et puis des fois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai, c'est trop gros pour être vrai, etc. Et je pense que c'est ça, c'est que de s'informer à plusieurs sources aussi. Ouais. Parce qu'une seule source, je veux dire la diversité des médias, la diversité des sources, on se parle dans une librairie là, la diversité de l'information, c'est ça qui nourrit, c'est ce qui permet aussi aux gens de se dire ben là il y a quelque chose qui quand il y a un loup c'est flou. donc je crois que c'est la diversité de l'information puis qui nous permet de nous faire une idée. Nous, moi, je suis journaliste, je suis pas commentatrice non plus. Hein. J'aide avec ce que j'apporte. Les gens ont une perspective, ont des outils pour se faire une opinion. Je suis pas là pour leur donner mon opinion. C'est pas je suis pas analyste.
Rester neutre.
C'est ça. Rester neutre. C'est sûr qu'on peut pas être neutre toujours 50-50 parce qu'il y a des gens qui refusent de nous parler, donc on n'a pas le pendant. Hein. J'essaie toujours d'aller regarder. Ça dépend du format. Là, ce que je suis en train de faire à Nevers, c'est que je parle vraiment du dossier de l'écologie. Donc, je suis pas en train de tendre le micro aux opposants ou quoi que ce soit. Je veux juste expliquer ce qui se passe. C'est une autre forme. Il faut définir aussi ce qu'on va faire comme forme de reportage.
Oui.
Et c'est ça qui rend le tout très intéressant.
Et est-ce que, du coup, tu aurais quelque chose à dire pour finir à quelqu'un qui voudrait devenir journaliste plus tard ou qui hésite encore à devenir journaliste?
Si j'étais prétentieux, je dirais que c'est le plus beau métier du monde. Mais ce que je dis, c'est que pour quelqu'un qui est curieux, qui aime rencontrer les gens, qui veut aussi que les gens soient informés. Et nous, on a la chance d'aller voir l'information. Et de la rapporter. Je crois que il faut persévérer. Il faut commencer au bas de l'échelle. Moi, quand j'ai commencé, et comme je dis, il n'y a pas de petits sujets, hein, je pense que. Mais il faut pas penser non plus qu'on devient correspondant à l'international du jour au lendemain, analyste politique ou journaliste politique du jour au lendemain. Il faut faire ses classes. Il faut persévérer.
Ouais. Faut prendre son temps.
Faut prendre son temps pour bien pas sauter les étapes, pas brûler les étapes. Et c'est sûr que avec les chaînes continues, avec l'information qui vient partout, on se sent poussé par le temps. Mais il faut dire qu'avec la rapidité vient le risque de dérapage aussi. Donc, il faut savoir doser. On peut plus faire les choses à l'ancienne. La technologie avance, mais il faut que ça avance de façon pour servir, pas pour desservir ou pour nuire ou pour créer des dérapages.
Oui.
Donc voilà. Mais ce que je dirais, c'est que c'est un métier passionnant. Je fais ça depuis maintenant des décennies. Et je me vois pas faire autre chose.
Eh ben, super. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et puis, à bientôt peut-être.
Oui, à bientôt sûrement. C'est peut-être moi qui vais vous écouter.
Eh bien, merci encore à Annick Béraud d'avoir accepté cette interview. C'est la fin de notre émission, merci de l'avoir écoutée. On espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve le mois prochain pour l'écho des jeunes sur Bac FM 106.1. Bonne journée. Should I go?